émission 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au rugby à 15 en Angleterre, le 15 de la Rose. C'est donc l'histoire du rugby anglais. L'Angleterre atteint le toit du monde du rugby en 15 en 2003. Cette année-là, le 15 de la Rose saigne 1-1 tous ses adversaires. Il remporte le Grand Chelem dans le tournoi des 5 nations, bat l'Australie et la Nouvelle-Zélande lors de la tournée d'été, puis gagne la Coupe du Monde disputée en Australie. L'Angleterre devient ainsi la première et toujours la seule nation de l'hémisphère nord à décrocher le titre mondial. L'équipe entraînée par Clive Woolward est emmenée par les légendaires Neil Back, Lawrence Dallaglio, Richard Hills, Martin Johnson, Jason Leonard et son demi d'ouverture de génie, Johnny Wilkinson. On est 180 ans après la légende fondatrice du rugby outre-Manche. En 1823, ce 1er novembre, en effet, William Wabellis, lors d'un match de football au collège de rugby, se serait saisi du ballon à pleine main. Fondé en 1567 au cœur du bourg pour accueillir des garçons de bonne famille, le collège dispensait une éducation classique. En Angleterre, le collège rassemble souvent collège et lycée, voire école primaire. Dans les années 1800, à Rugby, certaines spécificités troublantes apparaissent. Le ballon en vessie de porc est ovale, les poteaux s'allongent et les contacts physiques entre joueurs se font de plus en plus rudes. William Gilbert, né en 1799, cordonnier, fabriquait les ballons de football pour le collège de Rugby. Les ballons avaient la particularité d'être ovales parce qu'ils étaient faits à partir de vessies de porc de forme ovoïde. Les ballons Gilbert, déjà connus à l'exposition universelle de Londres en 1851, devinrent très vite l'unique référence et partirent à la conquête du monde. L'histoire du rugby est donc en marche. Avec la révolution industrielle, la population du collège change. Et l'on voit arriver de jeunes garçons des classes moyennes qui n'ont jamais eu accès aux traditionnels sports de riches comme la chasse et la natation et qui adoptent naturellement le football, sport d'extérieur un peu rustique et profondément égalitaire, avec juste ce qu'il faut de touches aristocratiques pour les séduire. Parmi eux, un dénommé William Wabellis qui prend un jour le ballon dans ses bras. Issu d'une famille modeste, William Wabellis était Préposte, surveillant adjoint, une fonction du collège confiée à certains élèves du collège choisis parmi les plus âgés et les plus sérieux. Il deviendra pasteur. En bout de vie, il vint se reposer sur la Côte d'Azur. Et en 1872, il est enterré au cimetière Vieux Château à Menton, 10 ans avant l'arrivée du rugby en France et 1 an seulement après la création de la Rugby Union Football. La tombe de William Wabellis fut découverte vers 1958 par Ross McWhirter, journaliste sportif, cofondateur du livre Guinness des records. Le reporter est resté dans l'histoire pour une autre raison. Quelques années plus tard, en 1975, il tombe sous les balles de l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, sur fond de tension entre le Royaume d'Angleterre et la population catholique d'Irlande du Nord. Le rugby est donc né. C'est un jeu violent. On y vient pour se défouler, se mesurer et célébrer la libération de son corps de tous les carcans d'une éducation rigide. Lors des affrontements, il n'y a pas d'arbitre. Le règlement des conflits, la définition des règles et l'organisation des rencontres sont laissés à l'entière discrétion des étudiants. Comme pour affirmer une filiation directe avec les inventeurs du jeu, l'équipe nationale d'Angleterre continue de jouer avec le maillot blanc du collège de rugby, avec une rose sur le cœur. Elle évolue à domicile, dans les faubourgs de Londres, au stade de Twickenham, et cela depuis 1910. La pratique du rugby effective dans les universités, à Cambridge, dès 1839, et les écoles privées de Londres durant la première moitié du XIXe siècle, connaît un tournant en 1858. Le club de Blackheath est créé. Celui-ci adhère d'abord à la Football Association en 1863, puis se démarque pour fonder une fédération propre le 26 janvier 1871, la Rugby Football Union. Le premier match international se joue à Édimbourg contre l'Écosse le 27 mars 1871 et les Écossais l'emportent sur un score de 4 à 1. Le rugby devient un sport à part entière. Dans son livre « Dictionnaire amoureux de l'Ovalie », Daniel Herrero évoque cet antagonisme football-rugby ou cette séparation en ces termes. Le football garde au final l'avantage de s'être structuré une décennie plus tôt que le rugby. Il épouse la conjoncture économique et sociale en devenant le terrain d'expression privilégié des populations urbaines très variées, happées par la révolution industrielle et recherchant une identité commune. Le football occupe ainsi très vite une place centrale dans la vie des ouvriers, des métallos et des mineurs, tandis que de riches hommes d'affaires commencent à supporter financièrement les plus gros clubs, accélérant ainsi la professionnalisation des joueurs. Ce jeu ne sera plus jamais un sport universitaire. Le rugby, construit sur des antagonismes de classe, s'enferme quant à lui dans son image de sport élitiste, symbole d'une classe moyenne aisée et éduquée. Notre référence absolue est aussi l'écrivain bordelais, journaliste et biographe Jean Lacouture, 1921-2015, qui dans son ouvrage « Voyous et gentlemen » a écrit « Si le rugby n'est pas un jeu universel, parbleu, c'est que les rugbymen ne l'ont pas voulu. » Pour être complet, cette opposition sociale valable en Angleterre ne l'est pas au Pays de Galles, où le rugby entre tout de suite dans les mines et les usines. En 1884, l'Angleterre emporte le premier tournoi des quatre nations. Ensuite, ce sont aussi de grands chelems, en 1913, 1914, 1921, 1923, 1924 et 1938. Après une interruption due à la Seconde Guerre mondiale, le tournoi reprend en 1947 avec la participation de cinq nations, car la France réintègre la compétition après en avoir été exclue depuis le tournoi de 1932. Le 15 de la Rose réussit en 1957 le premier grand chelem de l'après-guerre. Entre 1964 et 1968, l'Angleterre connaît une terrible traversée du désert, en ne remportant que 5 rencontres en 5 ans. Les Anglais ne gagneront jamais le tournoi durant les années 1970, si ce n'est en 1973, année où, et c'est une curiosité, toutes les équipes le remportent pour avoir gagné chacune tous leurs matchs à domicile. L'année précédente, en 1972, la compétition ne s'était pas terminée en raison de troubles en Irlande du Nord. Le 15 anglais doit même attendre 23 ans avant de remporter un nouveau grand chelem, réalisé en 1981 sous la houlette du capitaine Bill Bowman, au terme d'une victoire 9 à 8 face aux Gallois, réduit à 14. L'Angleterre participe à la première Coupe du Monde en 1987 et elle s'incline en quart de finale face au Pays de Galles sur le score de 16 à 3. Les Anglais dominent ensuite le tournoi des 5 nations dans la première moitié des années 1990, au cours desquels ils réalisent le Grand Chelem en 1991, 1992 et 1995. Ils possèdent à l'époque des joueurs de grand talent, Rob Andrew, Rory Underwood, Will Carling, Dean Richards. L'Angleterre est le pays hôte de la Coupe du Monde 1991. La finale a lieu dans un stade de Twickenham qui affiche complet. L'Angleterre perd sur un petit score de 12 à 6, laissant aux Wallabies le titre prestigieux de champion du monde. À la Coupe du Monde 1995, qui se déroule en Afrique du Sud, elle s'incline en demi-finale contre les impressionnants All Blacks. Dans un match dominé par les All Blacks et John Alumu qui crève l'écran avec ses 4 essais, les Anglais perdent 45 à 29. La France, battue lors de la Coupe du Monde 1991, prend sa revanche contre les Anglais avec une victoire pour la 3e place. Et ce sont les Springboks qui remportent l'épreuve devant Nelson Mandela. En 1999, le 15 de la Rose est seulement quart de finaliste de la Coupe du Monde. En 2003, l'Angleterre continue de progresser. Elle remporte le Grand Chelem pour la première fois depuis 1995. Mais la consécration mondiale viendra bien en 2003, en Australie. Elle est couronnée championne du monde sur un drop goal réussi dans les 30 dernières secondes de la prolongation par Johnny Wilkinson. Le score final est de 20 à 17, dans un match considéré comme un des sommets du rugby. Johnny Wilkinson dira « Le drop en finale, l'un des plus faciles que j'ai jamais eu à réaliser. » Le deuxième ligne, Martin Johnson, 2m01, 119 kg, double champion d'Europe avec son club de Leicester, et capitaine du 15 anglais de 1999 à 2003. En 2007, les Anglais retrouvent en quart de finale les Australiens de George Weigand et s'imposent 12 à 10. Les Anglais disputent une demi-finale contre les Français au Stade de France, que le 15 de la Rose emporte 14 à 9 grâce à une pénalité et un drop de Johnny Wilkinson dans les 10 dernières minutes. Et ils perdent en finale contre les Springboks 15 à 6. À la Coupe du Monde 2011, en Nouvelle-Zélande, en quart de finale, ils tombent de nouveau sur l'équipe de France, qui les élimine sur le score de 19 à 12. À l'issue de la Coupe du Monde 2011, l'entraîneur, ancien capitaine, Martin Johnson, démissionne et est remplacé par Stark Lancaster. À la Coupe du Monde 2015 qu'elle organise, c'est la première fois que l'Angleterre ne se qualifie pas pour les quarts de finale. Et c'est aussi la première nation à être éliminée lors de la phase de poule d'une Coupe du Monde qu'elle organise. Le nouvel entraîneur est Eddie Jones. Depuis, c'est la renaissance. L'Angleterre arrive au Mondial 2019 du Japon comme une des favorites à la victoire finale. L'Angleterre emporte le quart de finale contre l'Australie 40 à 16, prenant sa revanche sur l'élimination prématurée au premier tour à domicile de la Coupe du Monde 2015 face à ces mêmes Wallabies, puis a créé l'exploit de sortir les Néo-Zélandais en demi-finale 19 à 7. Les Néo-Zélandais qui étaient les grands favoris de cette Coupe du Monde. Mais le 15 de la Rose passe à côté de sa finale et s'incline face à sa bête noire sud-africaine, 12 à 32. Pour la Coupe du Monde 2023, qui se déroulera en France en septembre-octobre, l'Angleterre est dans la poule D, en compagnie du Japon, de l'Argentine, des Samoa et du Chili.